Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Bonjour Myriam El-Bajnouni, merci d'avoir accepté cette invitation d'Approche Culture et Territoire. Donc dans ce nouveau podcast, on va parler avec vous art et thérapie et comment ils se rencontrent. Et puis on va essayer de revenir un petit peu aussi sur votre parcours, les raisons de votre engagement, etc. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle donc Myriam El-Bajnouni, je suis art-thérapeute et danseuse. Je viens de créer une association récemment qui s'appelle Sinbalein. Sinbalein, c'est l'étymologie du mot symbole. C'est en fait sans jeter. C'est l'idée de mettre ensemble, de réunir, de créer du lien. L'objet de l'association, c'est justement donc de créer du lien. Alors, il y a plusieurs volets. Il y a les liens internes, qu'on va appeler les liens psychiques, les liens à la personne envers elle-même, qui vont plus tard pouvoir lui permettre de fonctionner, les liens à la société, au social, etc. Et le lien à ce que moi j'appelle invisible, et à travers l'art et à travers les ateliers d'art-thérapie. Où, voilà, l'étiquette c'est art-thérapie, mais ça prend plusieurs formes en fonction du public rencontré, etc. Mais c'est en tout cas vraiment l'objet, c'est comment recréer du lien. Et on part du lien psychique interne à la personne pour aller vers l'extérieur. Et aujourd'hui, je suis en train de développer un peu tout ça, quoi.
Et vous avez d'abord commencé par la danse pour aller vers l'option un peu plus comment l'utiliser en thérapie. Comment on arrive justement à ce cheminement, comment l'art vient un peu au chevet de la thérapie, on va dire.
Ça a été pour moi un peu une thérapie, l'art, la danse. J'ai pas eu accès à, quand j'étais plus petite, j'ai toujours eu un corps dansant, j'ai toujours aimé jouer la comédie, chanter. J'ai pas eu accès à ça quand j'étais plus jeune. Et quand j'y suis arrivée, c'était il y a à peu près 8 ans, où j'ai vraiment commencé... en fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai un peu suivi, disons, les mécanismes, enfin là où ma vie me menait sans que j'y prenne vraiment part. J'ai un peu suivi un peu là où ma vie me menait et je me suis retrouvée, j'avais un poste à responsabilité dans un restaurant. J'étais en couple, ça fonctionnait très bien, on avait un grand appartement, etc. Et en fait, à ce moment-là, où j'ai atteint, on va dire, quelque chose de... où j'avais pu m'émanciper quand même de mes parents, de plein de choses, j'ai réalisé qu'en fait, je ne savais pas du tout qui j'étais. Et qu'en fait, ma vie ne faisait que commencer. Donc, voilà, j'ai commencé à fouiller un peu et j'ai commencé par me dire, en fait, j'ai toujours eu en moi... je me suis toujours interrogée sur le monde dans lequel je vivais, en fait. Je suis issue d'une double culture. Mes parents sont marocains. On a grandi dans une petite ville de la Côte d'Azur. On n'était pas beaucoup de familles maghrébines, quelques-unes. Donc c'était très particulier, à la maison c'était vraiment traditionnel et même à l'extérieur j'étais quand même noyée dans un monde occidental quoi. Donc je sais pas si c'est ça, je pense qu'il y a un peu de ça, un peu de ma personnalité aussi, mais très tôt je me suis interrogée sur ce qui définissait une personne, pourquoi moi, née là, dans cette famille là, je devais me comporter ainsi et pourquoi les autres différemment, qu'est-ce qui fait un être humain, très jeune j'ai commencé à m'interroger et très jeune j'étais sensible aussi à la différence, à pourquoi on traitait les gens différemment, tout ça, et très sensible au monde qui m'entourait quoi. Et donc voilà, donc cette période là où je me dis bon en fait je sais pas du tout qui je suis, qu'est-ce que je suis, j'ai commencé à prendre la décision d'aller vers les choses qui me plaisaient, qui m'animaient. Donc j'ai essayé un peu de faire du bénévolat j'ai fait des maraudes, j'ai essayé un peu de me rapprocher en parallèle de structures associatives qui étaient auprès des gens. Et j'ai mis beaucoup de temps parce que je ne me légitimais pas beaucoup, mais j'ai commencé à pratiquer progressivement en arrivant à Marseille, parce que du coup, j'ai tout quitté là-bas. J'ai quitté le boulot, le copain, tout ça. Et après une période un peu assez difficile où du coup, j'étais sans repère, je ne savais plus trop qui j'étais, j'ai débarqué à Marseille et là, je suis tombée dans un réseau plutôt artistique. Et tant bien que mal, j'ai commencé à pratiquer un peu et j'ai eu la chance de tomber sur des pratiques très intéressantes qui sont vraiment où la personne, où on se met en jeu en fait. On se met en jeu dans l'authenticité, la recherche à travers le corps, c'était vraiment la recherche de présence et d'enlever les masques en fait. Donc moi, ça m'a vraiment permis de débroussailler beaucoup. Ça, c'est pas fini, hein, mais bon, ça m'a beaucoup permis ça. Et de suite, bien sûr, j'ai fait toujours le lien en parallèle avec comment insérer ça dans l'accompagnement à la personne, quoi. Parallèlement à ça, dans ce parcours-là, je me suis formée à l'art-thérapie. Ça, c'était intéressant. Moi, j'ai toujours été passionnée, du coup, donc par aussi comment ça fonctionne, le cerveau humain, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, j'ai pu me former à la psychanalyse dans ce cadre-là. Et ça a été super. C'est au fur et à mesure, j'ai vraiment acquis des différents paramètres, différentes entrées de lecture de ce qui pouvait constituer un être humain, en fait, et comment parfois on est pris dans des mécanismes, dans des histoires personnelles, selon la culture où on est né, la famille où on est né, enfin, toutes ces couches-là qui nous constituent, et comment, au fur et à mesure, on peut trouver des espaces où on va un peu déblayer tout ça pour essayer de se retrouver dans un espace, on peut appeler ça une assise psychique, quoi, sentir qu'on est assis quelque part, on se fait quelque chose qui nous soutient, et à partir de là, être qui on veut être, en fait, quoi. Et du coup, oui, aujourd'hui, j'ai la sensation que je peux commencer un peu à partager tout ça. Et pour moi, c'est les deux vont ensemble. J'ai besoin de créativité parce que bon, je pense que c'est ce qui me correspond. Mais j'ai vraiment aussi besoin de sentir que je m'insère dans le social. C'est parti de là, en fait. J'ai eu un peu une crise à un moment où, à cette époque-là, où je travaillais, où j'étais sur la Côte d'Azur, tout ça, on faisait beaucoup la fête. J'ai beaucoup, beaucoup fait la fête. Et du coup, on refaisait tout le temps le monde. Hein, vous savez, fin de soirée, ouais, ça va pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'y prenais pas part à ce monde. Et je me suis dit, non, mais en fait, tu vas te donner les moyens de prendre place à un moment et de faire ce que tu as à faire. Et ça a toujours été des appels très forts, quand même, ces appels-là. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
Les personnes que vous accompagnez à travers la danse et à travers l'art-thérapie, ils sont de tout profil. C'est qui un petit peu les gens que vous accompagnez?
Alors là, ça commence tout juste, hein, mais j'ai commencé là, dans un IME, c'est donc un institut médico-éducatif. C'est des jeunes adolescents entre 13 et 15 ans qui sont dans un spectre autistique, on va dire. Donc ça, c'est vraiment de l'art-thérapie. Après, j'avais commencé à bosser dans un centre social, ici, au Plan d'Aou. Là, c'était plutôt... J'avais des ateliers qui étaient que danse. C'était purement danse avec des jeunes. J'avais des enfants et des jeunes filles de 8 ans, on va dire, et un groupe de femmes. Avec le groupe de femmes, ben, je commençais à vouloir développer justement des problématiques et pouvoir aller plus loin, mais Monsieur Corona a débarqué. Mmh. Et ça arrêtait pas mal de choses. Là, je continue l'IME, mais ça s'est arrêté. Et avec les enfants, justement, c'était comment... j'étais en plein questionnement de comment... elles sont là clairement pour se faire du bien, en fait, pour se faire du bien, pour acquérir un savoir, etc., pour s'amuser, acquérir cette corporalité. Et en même temps, c'est des endroits sensibles où je sais quand même qu'il y a des problématiques qui se jouent. Et je me disais, comment est-ce que je peux amener, sans amener sur des gros sabots, amener ces problématiques-là? Et c'était en cours de réflexion. Je me suis dit qu'après, au fur et à mesure, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les outils que j'ai pu acquérir, sont assez larges. Donc on peut vraiment passer, c'était comment amener petit à petit, peut-être en choisissant des mots, en mettant un peu en scène des jeux, à travers le corps, comment pouvoir travailler, mettre en jeu certains thèmes, quoi. Et c'est vrai que le corps est un outil fantastique, en fait, pour accéder à certaines choses. Des fois, il y a des choses qui nous échappent, hein, des fois, on ne sait pas ce qui nous travaille, et le corps, c'est au-delà du mental, quoi. Donc c'est vraiment très beau, c'est parfait pour travailler beaucoup de choses, pour atteindre beaucoup de niveaux psychiques, émotionnels, spirituels également.
Oui, parce que justement, j'allais dire, on l'utilise très peu finalement, le corps, et peut-être d'autant plus pour dire qui on est ou qu'est-ce qui nous traverse. Donc j'imagine c'est là que tout se joue aussi. Il doit y avoir des barrières peut-être à faire tomber au départ avec les gens, ou comment vous ressentez ça en fait dans la manière dont on utilise nos corps?
Oui, je crois qu'on s'autorise. Je crois que le mental est très prégnant chez nous, ici en Occident. Et donc, on a tendance à se raconter des histoires. L'imaginaire, ce qu'on s'imagine, ça prend beaucoup de place. Et oui, je crois que oui, il y a beaucoup de... Il y a une première intention que j'aime beaucoup travailler, moi, c'est lié à un élément qu'on appelle l'élément O. C'est vraiment un état de rien faire, en fait. Juste c'est l'état de présence, en fait. Et c'est une qualité qui est superbe. Il y a parfois de mettre des personnes dans ces états-là. En fait, juste une présence, on se rend compte à quel point juste être, c'est magnifique, en fait, c'est hyper poétique. Et on se rend compte au fur et à mesure comme on parasite beaucoup, et on n'a plus accès à ces états-là de rien, en fait. Mais je pense que oui, pour nos sociétés, pour les gens qui ne sont pas habitués, oui, il y a beaucoup, le mental vient se poser clairement là au milieu, quoi. Après, c'est des choses qui se travaillent.
Vous disiez que dans tout ce qui vous a amené, en tout cas, à ça, il y avait l'impression de ne pas faire partie du monde. Qu'est-ce qui fait qu'on fait partie d'un monde ?
Ben, je crois que c'est surtout à l'intérieur, c'est la part de soi, en fait, hein, de comment à l'intérieur de soi, on se sent constitué, en fait. Là, dans le cas de l'IME, c'est quand même des pathologies. Moi, j'ai l'impression que ça passe beaucoup par la relation, en fait. Du coup, c'est vraiment ces relations internes où on dit que chez les personnes qui ont des pathologies fortes, c'est vraiment parfois des dysfonctionnements, en fait. C'est que, en fait, on est un tout. On croit tout le temps qu'on est un tout, mais en fait, on est agi par plein de choses. Il y a l'inconscient qui joue, il y a les choses qu'on voudrait, mais les choses qu'on ne veut pas au fond. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui nous agissent beaucoup. Quand on arrive à constituer ce noyau qui est le « moi », on arrive à fonctionner dans la société. Parfois, le moi est beaucoup trop rigide, en fait, et du coup, on n'a plus accès à cette part autre invisible de nous. Et parfois, dans les pathologies, le moi, il peut pas être constitué, quoi. Il n'est pas complètement constitué. C'est aussi une protection. C'est aussi une protection, le moi, en fait. Le corps, il y a des pathologies où le corps, la personne ne sent pas son corps. C'est-à-dire que vous, si vous faites ça, vous savez que vous avez tendu le bras. Il y a des personnes chez qui ça fonctionne pas, c'est pas constitué, quoi. Moi, je dirais surtout que ce que j'essaie de mettre en place, c'est de faire avec, en fait, où on en est aujourd'hui. De se dire que de créer des espaces où la personne reprend les choses en main, où on évacue tout ce qui nous jasit à notre insu, en fait. Ou alors, même sans l'évacuer, mais prendre contact, mais de prendre du recul, en fait. Prendre de la distance avec ce qui parfois peut nous étouffer, peut nous agir, quoi, clairement. Et il y a des espaces comme ça, quand on atteint certains espaces de créativité, en fait, c'est vraiment le processus créatif, mais ça, c'est comme si on pouvait manier tout ça, en fait. Ça devient... c'est comme si le moi et le social, c'est des choses qui sont extérieures et qu'on peut manier depuis cet endroit où on est juste un être, quoi.
Et alors, on a commencé à aborder les raisons de votre engagement à travers votre parcours personnel, mais ouais. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus peut-être sur ce qui vous pousse à agir maintenant, aujourd'hui, et sur ces actions-là spécifiquement ?
Aujourd'hui, moi, je supporte pas, c'est épidermique, l'injustice. J'aime beaucoup la différence. Moi, c'est ce qui m'enrichit, en fait, peut-être justement du fait de ma double culture, je sais pas, je suis sensible à ça. Mais je trouve que la différence est très riche. Les gens qui sont différents dans leur comportement, donc les gens qu'on dit entre guillemets malades ou qu'on considère comme fous, qui sont mis au banc de la société. Le peuple, moi, je suis très... je m'enrichis au contact des gens, en fait. Et aujourd'hui, de voir la violence systémique qui est super bien, c'est une machine huilée qui fonctionne, c'est aussi des espaces où on se réapproprie un imaginaire, où aujourd'hui, le système a bien saisi qu'il fallait jouer sur l'imaginaire, en fait. Hein. La télé, enfin, les informations, on bombarde les gens d'informations. Je veux dire, c'est un système tellement en place, et on le voit tellement, ce système, et on voit que ça continue de fonctionner. C'est très physique. J'ai besoin de m'en éloigner parfois, et c'est pour ça que je vais aussi plutôt parfois dans la création, et plutôt dans les choses où j'ai plutôt envie de semer. Parce que cette violence-là, je la supporte pas, en fait. C'est horrible, c'est inhumain, en fait. Et je me rends compte à quel point, aujourd'hui, on est tout à fait capable de vivre vraiment bien, en fait. On sait plein de choses, il y a des informations qui circulent, on a des savoirs magnifiques, on a accès à plein de choses. Et comment tout ça, c'est bousillé par juste un groupe de malades, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est des psychopathes, ces gens-là. Ils sont vraiment coupés du social, quoi. Enfin, ils savent plus être en vie, quoi. Et comment le vivant à tous les niveaux, hein, que ce soit l'humain, le règne animal, tout ça, je trouve ça horrible. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Donc je commence là où je suis, quoi. Moi, les premiers endroits où j'ai envie d'être là aujourd'hui, actuellement, c'est effectivement dans les quartiers populaires, quoi. J'ai beaucoup envie d'être là parce que ça me résonne beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est quand même ça qui condense un peu la violence aujourd'hui qui touche tout le monde. Pour moi, elle a commencé quand même là. Enfin, c'est vraiment, ça fait plus longtemps qu'elle agit là, et par la même manière, de la même manière, hein, de rendre l'autre objet, de l'utiliser comme un objet, quoi. Et après, ben, j'ai envie de travailler dans plein d'endroits aussi, hein, avec les personnes âgées aujourd'hui. Je me dis que j'ai vraiment envie d'être là, avec tous ces endroits-là, qui sont très riches, en fait, hein, très riches de potentiel et qui ne peuvent pas trouver à se développer, quoi.
Mais tout ça, ça fait écho aussi beaucoup, encore une fois, pour moi, au corps et à ce que la danse permet et ce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus. Parce qu'on parlait du coronavirus, mais ouais. Aujourd'hui, danser, on n'a même plus le droit. Ouais. Et puis, dans les quartiers populaires, ça passe aussi par un contrôle du corps et de ce qu'il représente. Ouais. Enfin, il y a quand même un nœud autour de ça, j'ai l'impression. Et le mouvement qu'on vit là... Il va plutôt par essayer de ligoter un peu nos corps.
Oui, complètement. Oui, on ligote les corps complètement. Hein. L'espace où les corps pouvaient se rencontrer n'existe plus. Oui, ça passe beaucoup par ça, ouais. J'ai la sensation quand même, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises de gens qui dansent dans la rue. Moi, j'aimerais bien... Je crois qu'il y a une réappropriation en cours, quand même. Pour moi, le corps, c'est très lié au psychisme, en fait. Hein, et du coup, le rendre immobile, c'est aussi rendre immobile tout... C'est annihiler le psychisme, quoi.
Vous avez un peu envie de résistance joyeuse par la danse, par la culture, etc. en ce moment.
Ouais, moi j'ai envie, oui, de création, ouais, de créer. Je pense qu'il faut. Je suis passée par les endroits de résistance, par le corps d'ailleurs, plutôt dans les manifs, où c'est des moments c'était un peu violent et tout. S'il faut y être, je sais que je peux y être. Hein, j'ai testé et tout, mais c'est vraiment pas les endroits où j'ai envie d'être là aujourd'hui. J'ai envie de créer. J'ai envie de créer des espaces où on peut recréer. Justement, on nous fait croire que tout est sclérosé, qu'on peut pas aller plus loin. Bon, c'est une réalité. Hein, il y a quelque chose de très violent. Mais non, moi je crois que le vivant est hyper surprenant. Et oui, moi j'ai envie de créer des espaces où les possibles. On prend conscience qu'il y a des possibles en fait, que tout c'est encore possible. Ouais, et que chacun en soi se crée ces espaces-là de possibles et d'agir parce que tant qu'on est vivant, on peut agir, quoi.
Ça va dans le sens aussi de notre dernière question rituelle, mais on a commencé à l'aborder par petites touches, mais on va dire qu'on aime bien quand même toujours remettre un petit peu l'accent dessus. La question rituelle, c'est pourquoi tu cries, pourquoi tu as la force peut-être aussi de continuer de crier, parce que c'est peut-être pas toujours simple de crier aussi.
Pourquoi j'ai la force? Non, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai des moments de sidération. Hein. J'ai des moments où je suis sidérée, quoi. Je suis là. Alors, autant parfois, je me dis que c'est assez juste parce que c'est aussi me couper un peu de tout ça et j'en ai besoin pour me régénérer. Mais il y a par moments, non, je sens un blocage aussi. Je sens quelque chose de. C'est pas forcément évident pour moi d'y aller. Mais déjà, c'est, dans ces cas-là, c'est assez chouette de s'entourer, en fait. Hein. Moi, en rencontrant l'équipe d'ACT, par exemple, Soraya et Rachida, c'est des super rencontres. Je pense que c'est. Justement, dans le fait de ligoter les corps, c'est hyper important de continuer à se rencontrer parce que j'ai besoin de prendre part, en fait. Hein. Je ne peux pas laisser faire, j'ai besoin d'agir, quoi. Et puis, de toute façon, si je n'agis pas, ça se ressent sur mon corps. Enfin, j'ai des endroits où j'ai mal, donc c'est en me mettant en mouvement que ça passe, en fait.
Donc, la force par l'autre, en fait, et par le corps.
Oui, la force par l'autre et par le corps, ouais, c'est très bien dit.
Bah merci en tout cas.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et à bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Cherbonnier.